Vous écoutez On lit pour vous.
5 ans après la deuxième vague, hashtag MeToo, où en est-on? Un reportage de Salomé Marie, paru le 11 juillet 2025 dans Urbania. En juillet 2020, Sabrina Como, une jeune femme en apparence bien ordinaire, dénonçait publiquement son présumé agresseur sur Instagram. Elle ne le savait pas encore, mais ce geste allait déclencher une vague de dénonciations publiques sans précédent qui allait secouer le Québec. 5 ans plus tard, ce mouvement de justice sociale tournant le dos aux tribunaux continue de diviser, et une publication récente sur les réseaux sociaux laisse présager qu'une nouvelle vague est en train de se dessiner, cette fois-ci dans l'ombre. Les débuts de la vague. C'était le premier été de la pandémie. Il faisait chaud, des bouts de nez dépassaient encore de masques en tissu fait maison et l'avenir était tout sauf certain. Au Québec, alors que la première vague de COVID-19 était en train de s'essouffler, une autre, d'une toute autre nature, se préparait à s'abattre sur les réseaux sociaux. Par centaines, les dénonciations de violences à caractère sexuel inondaient nos feeds. Écho du mouvement hashtag Moi aussi de 2017, marqué au Québec par les enquêtes journalistiques ayant provoqué la chute de l'animateur Éric Salvaille et du mania de l'humour Gilbert Rozon, et qui, par ailleurs, n'était pas centré sur les dénonciations sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle vague a eu un véritable effet domino. Chaque témoignage donnait un peu plus de courage à une autre victime pour briser le silence à son tour. L'organisme Jury Pop était aux premières loges du phénomène et ce, dès ses débuts, se souvient sa directrice générale, maître Sophie Gagnon. On avait un appel à chaque 20 minutes, de 8 heures le matin à 8 heures le soir. La clinique juridique était submergée d'appels concernant les dénonciations sur les réseaux sociaux et les listes publiées en ligne qui permettaient aux présumées victimes de préserver leur anonymat. La plus connue de ces listes a été celle publiée par « Dis son nom », une page Facebook créée en août 2020. En tout et pour tout, les noms de plus de 1500 abuseurs présumés soumis aux administratrices via des dénonciations anonymes y sont apparus. Ainsi, certains ont découvert du jour au lendemain que leur nom figurait sur cette liste sans pouvoir savoir qui était à l'origine de ces dénonciations ni en quoi elles consistaient. Pour plusieurs, ça a été un moment où on est allé trop loin, analyse la journaliste au Devoir et autrice de l'essai « Que reste-t-il de hashtag moi aussi, secousse québécoise d'un mouvement planétaire » Amélie Pineda. D'un côté, il y a des gens qui disent « Oui, ça a eu des conséquences sur ma vie. Je fais partie d'une liste et je ne sais même pas ce qu'on me reproche. » D'un autre côté, il y a des personnes qui disent « On le fait pour l'intérêt du public. » On fait ce qu'on faisait dans nos cercles d'amis, c'est-à-dire prévenir quelqu'un que cette personne-là reste pas toute seule avec parce qu'on a déjà eu des mauvaises expériences, ajoute celle qui a publié il y a 5 ans, presque jour pour jour, l'enquête journalistique révélant les allégations d'agression et d'inconduite sexuelle visant l'humoriste Julien Lacroix. La liste de « Dis son nom » n'est aujourd'hui plus disponible et des dossiers concernant ces administratrices sont toujours devant les tribunaux. Un système judiciaire pas toujours adapté aux survivantes. Dénoncer des agressions sexuelles publiquement est un phénomène qui ne date pas de 2020. La doyenne de la Faculté de sciences politiques et de droit de l'Université du Québec à Montréal, Rachel Chagnon, avance que cette tendance est documentée depuis les débuts des blogs et des réseaux sociaux. Cette idée-là, de ne pas passer par le système de justice et de s'y prendre autrement pour obtenir une certaine forme de justice, c'est quelque chose qu'on voit de façon récurrente. Post-2017, Beaucoup de travail a été fait, autant dans le système de justice que dans les postes de police, pour réformer certaines pratiques, qui étaient par ailleurs problématiques, pour donner plus de place aux victimes, mieux les encadrer et favoriser la dénonciation via le système judiciaire, estime l'experte. Or, visiblement, en 2020, on a vu que ça ne parvenait pas à satisfaire toutes les victimes. Selon elle, plusieurs facteurs expliquent pourquoi les poursuites judiciaires ne parviennent pas à combler les besoins des survivantes de violences à caractère sexuel. Parmi ceux-ci, il y a le fait que les agressions sexuelles relèvent du monde de l'intime et qu'elles impliquent souvent un lien affectif entre l'agresseur et sa victime. Des fois, l'agresseur est un proche, quelqu'un qu'on connaît, qu'on aime. On ne veut pas qu'il aille en prison. On veut qu'il soit réparé, avance Rachel Chagnon. La reconnaissance des torts par l'agresseur est justement une forme de réparation essentielle au processus, croit-elle. Les victimes aspirent à un moment où l'agresseur va admettre ses torts. Malheureusement, dans le système criminel, on n'arrive pas si souvent à ce moment-là. Un tribunal social est-il légitime? Si le courage des personnes victimes d'abus sexuels a été applaudi par plusieurs, la nature publique et l'absence d'encadrement judiciaire ou d'enquête journalistique ont rendu la vague de dénonciations sur les réseaux sociaux de 2020 fortement polarisante. En ce moment, je pense qu'il y a vraiment une tension non résolue entre ce que cherchent à atteindre les victimes qui choisissent de dénoncer via les réseaux sociaux et notre vision collective de la justice, puis de ce qui est une réponse juste à ce qu'on considère être une injustice. Laisse tomber Rachel Chagnon. Au cœur des discussions entourant les dénonciations publiques, il y a, d'une part, la question de la présomption d'innocence. Notre système de justice a beau être hautement imparfait, on en est fortement imprégné. On a une croyance forte dans le droit à la présomption d'innocence. C'est un système qui nous marque dans notre vie quotidienne et qui nous apporte une certaine éthique dans notre façon de voir le monde, explique la doyenne. Le droit nous donne des balises claires et des repères qui font défaut lorsqu'il est question de dénonciation publique. La personne accusée a-t-elle la possibilité de se défendre? Ne devrait-on pas lui laisser le bénéfice du doute? D'autre part, une des fonctions du système de justice est de régler le litige, ajoute Rachel Chagnon. On finit par arriver à une résolution, quelle qu'elle soit, ce qui peut permettre aux personnes victimes de clore l'histoire et de reprendre le cours de leur vie. Malheureusement, souvent, ce qu'on voit avec hashtag MeToo et les dénonciations populaires, c'est qu'il n'y a pas de processus clair qui nous amène à ce moment-là, affirme-t-elle. D'un autre côté, on se trouve dans un flou quant au pardon accordé à l'abuseur présumé. Dans un procès populaire, quand est-ce que l'agresseur paye pour sa faute? Quand peut-on considérer que ça y est, là? Il a eu suffisamment de temps pour réfléchir? Pointe Rachel Chagnon. À ce sujet, les avis sont mitigés. Surtout lorsque les accusations visent des personnalités publiques. Alors que certains croient que la vie publique devrait être réservée à ceux qu'ils méritent et qu'une vedette visée par des allégations ne devrait pouvoir retrouver sa place sous les projecteurs, d'autres croient que la réhabilitation est possible pour ceux qui reconnaissent leurs torts, ont fait leurs excuses et ont fait un travail sur eux-mêmes. Vous écoutez, 5 ans après la deuxième vague hashtag MeToo, où en est-on, un reportage de Salomé Marie, paru le 11 juillet 2025 dans Urbania. Des progrès sociaux. Indépendamment des critiques qu'elle a pu soulever, la vague de dénonciations de 2020 a indéniablement provoqué des avancées au sein de la société québécoise. Ça a été un mouvement qui a changé la façon d'aborder les violences sexuelles, explique la journaliste Amélie Pineda. Elle avance qu'elle aura aussi permis de solidifier la compréhension du public à l'égard du système judiciaire. Le public est plus sensible à ces histoires-là et on comprend mieux pourquoi c'est difficile pour quelqu'un de porter plainte. Elle estime aussi que la médiatisation des procès comme ceux d'Éric Salvaille et de Gilbert Rozon auront permis au public de mieux comprendre la distinction entre les poursuites aux criminels et aux civils. En 2017, les journalistes Stéphanie Vallet et Katia Gagnon publiaient dans La Presse la première enquête journalistique découlant du mouvement « Moi aussi au Québec » qui traitait des allégations d'inconduite sexuelle qui visaient Éric Salvaille. Vallet souligne qu'avant 2017, on ne voyait que très peu de procès civils pour agression sexuelle dans les médias. Il y avait un manque d'intérêt. C'est une voie qui n'était pas assez utilisée. Pourquoi? Selon la journaliste, il s'agit d'un processus coûteux pour les personnes victimes et d'autres ignoraient même qu'il s'agissait d'une option. Des avancées dans le système de justice. Malgré tout, du côté du système de justice, le Québec a fait d'importants progrès. Parmi ceux-ci, il y a le projet de loi 75, entré en vigueur en décembre dernier, estime Maître Sophie Gagnon. Celui-ci crée une présomption de non-pertinence de la preuve qui repose sur les mythes et stéréotypes. Un exemple de mythe et stéréotype? On pourrait tenter de décrédibiliser une victime qui est restée en contact avec son agresseur après les faits, ce qui va à l'encontre de l'idée que l'on peut se faire de la victime parfaite. Le procès de Gilbert Rozon est l'un des premiers où l'on applique cette disposition. C'est une grande amélioration, se réjouit la directrice générale de Juripop. Le même projet prévoit d'autres mesures, notamment celle de permettre à une personne victime d'être accompagnée par un intervenant pendant son témoignage, ou encore de témoigner à distance. Ça peut sembler banal parce que ce sont des mesures d'accommodement qui étaient en place depuis longtemps en matière criminelle. Mais nous, dans les dossiers en affaires civiles, il fallait qu'on fasse la demande à la cour chaque fois. C'était non seulement des frais pour la personne victime, mais c'était aussi du temps et de l'incertitude. Alors on est vraiment satisfait et on constate que c'est une importante avancée. Selon elle, un autre pas en avant en matière criminelle est la création du tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violences conjugales. Le projet pilote a été déployé dans plusieurs régions administratives de la province. Une des mesures, par exemple, c'est d'avoir toutes les causes regroupées sur un seul et même rôle pour qu'elles soient entendues dans une seule et même salle de cour par un seul et même juge, explique Maître Sophie Gagnon. Mais ce n'est pas tout. On cherche, entre autres, à raccourcir les délais. On veut aussi s'assurer que ce soit un seul et même procureur qui suive le dossier du début à la fin pour renforcer un lien de confiance et éviter à la personne victime d'avoir à répéter son histoire, ajoute-t-elle. Un long chemin à parcourir. Même si on peut voir des progrès, tant du côté du système de justice que de la compréhension collective des violences sexuelles, on a encore un long chemin à parcourir. L'avocate Maître Virginie Demers-Lemire, qui représente les administratrices de Dis son nom, estime que les coûts liés aux poursuites aux civils restent un grand frein pour plusieurs personnes victimes. Comme il y a le fonds d'aide aux actions collectives, il faudrait un fonds pour les victimes d'agressions sexuelles, croit-elle. Alors, quelle est la solution? C'est la grande question à laquelle réfléchit Rachel Chagnon depuis des dizaines d'années. Selon elle, une partie de la réponse se trouve peut-être dans deux approches alternatives à la justice pénale. La justice réparatrice, qui encourage les personnes contrevenantes à assumer les conséquences de leurs actions et à réparer les torts ou les dommages causés par un crime. Et la justice transformatrice, qui vise une transformation des individus, mais aussi de la société dans laquelle prennent place les violences. Vers une nouvelle vague? Le 29 juin dernier, une publication prévenant les abuseurs non cancellés qui auraient été épargnés par les vagues de 2017 et 2020 qu'une nouvelle vague est en train de se dessiner, a suscité de vives réactions sur Instagram. Vos abus circulent, sont sus. Et quand il y a du monde qui sait pas, on s'arrange pour que ça sache. Vous ne pourrez pas nous poursuivre pour diffamation parce qu'on ne laisse pas de traces. Vous ne saurez jamais qui a parlé. Parce qu'on parle toutes d'une seule voix, peut-on y lire. Il serait toutefois faux de croire que les personnes qui participent à cette nouvelle vague de dénonciation sont à l'abri d'accusations en diffamation. C'est sûr que si on fait une campagne de salissage sur la place publique, les dommages seront plus importants que si on porte atteinte à la réputation de quelqu'un dans son milieu de travail, dans son cercle social, nuance maître Sophie Gagnon. Par contre, on peut quand même parler d'atteinte à la réputation, même si les propos sont répandus dans un cercle plus limité. Souvent, c'est une dimension de la diffamation qui est méconnue et importante à saisir. Elle souligne également que, contrairement à ce que plusieurs pourraient croire, la diffamation ne se limite pas qu'aux mensonges. Il est aussi possible de porter atteinte à la réputation de quelqu'un en répandant des informations véridiques. Ce qu'on a vu chez Jury Pop, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'une mise en demeure ou d'une poursuite en diffamation pour faire peur, ajoute-t-elle. Dans un climat où la vérité et la réputation s'affrontent, une chose est sûre. La soif de justice demeure. Qu'elle s'exprime devant les tribunaux, sur Instagram ou dans une conversation de salle de bain, elle continue de chercher sa voix. Si les deux premières vagues de hashtag moi aussi ont provoqué d'importants changements dans la société québécoise, reste à voir si une troisième permettra d'étancher la soif des victimes. C'était 5 ans après la deuxième vague hashtag MeToo, où en est-on? Un reportage de Salomé Marie, paru le 11 juillet 2025 dans Urbania.
L'OQLF fait volte-face et accepte l'utilisation de Go pour soutenir des équipes. Un texte de Maura Forrest de la presse canadienne paru le 3 juillet 2025 dans Le Devoir. L'Office québécois de la langue française, OQLF, a changé d'avis quant à l'acceptabilité de l'utilisation du mot « go » pour encourager les équipes sportives. Dans une nouvelle directive publiée dans son dictionnaire en ligne, l'OQLF indique que, bien que « aller » soit le terme privilégié, l'usage du mot anglais à des fins d'encouragement est désormais partiellement légitimé. Cette volte-face survient après que l'Office eut adopté une ligne dure envers la Société de transport de Montréal, STM, la pressant pendant des mois en 2024 de retirer le mot « go » visant à encourager des équipes sportives, des panneaux électroniques de plus de 1000 autobus. L'Office a confirmé avoir changé de position après que la presse canadienne a obtenu une série de courriels en vertu de la loi sur l'accès à l'information, révélant qu'elle avait donné le feu vert à la Société de transport pour utiliser Go en juin 2025. Ce revirement fait suite à un tollé survenu à la veille du premier match éliminatoire à domicile des Canadiens de Montréal en avril 2025, lorsque le journal Montréal Gazette a rapporté que la STM avait remplacé « Go Canadien Go » par « Allez Canadien Allez » pour rester dans les bonnes grâces de l'organisme de surveillance. Ces révélations avaient incité le ministre de la langue française, Jean-François Roberge, à intervenir, et il avait déclaré que l'expression « go abs go » faisait partie de la culture québécoise et que toute plainte future concernant ce slogan serait rejetée. Cette déclaration frisait l'ingérence politique et a placé l'organisme de surveillance dans une position délicate, selon un expert. L'Office a dû « répondre à une commande politique », a souligné Benoît Melançon, professeur émérite de littérature française à l'Université de Montréal. Le ministre a dit « Vous allez accepter cela ». Alors l'Office a dû trouver une façon d'accepter cela. La STM n'a pas encore décidé si elle allait réintroduire le mot « go » sur l'affichage de ses autobus. Un porte-parole a déclaré que l'organisme entame maintenant sa réflexion sur le sujet. Dans un communiqué publié en avril 2025, Dominique Malac, présidente de l'Office de la langue française, a convenu du fait que le slogan « Go Abs Go » est ancré dans l'histoire du Québec. Elle a néanmoins ajouté que le mot « go » est un anglicisme et que les organismes publics ont l'obligation d'utiliser un français exemplaire, ce qui inclut l'utilisation exclusive de mots français dans leur affichage. Des courriels transmis à la presse canadienne montrent que la STM a demandé à l'OQLF l'autorisation de recommencer à utiliser « go » à la suite du tollé soulevé en mai 2025. Un mois plus tard, le 6 juin, l'Office orientait la Société d'État vers la nouvelle entrée du mot « aller » dans son dictionnaire terminologique en ligne, un guide de référence pour le bon usage du français au Québec. La page souligne que l'anglicisme « go » est utilisé au Québec depuis au moins les années 1980 et qu'il est bien implanté dans le langage courant. Il est considéré comme étant partiellement légitimé, indique l'entrée. Interrogé par la presse canadienne sur l'échange de courriels publié récemment, l'organisme de surveillance a confirmé avoir mis à jour sa position. L'Office considère maintenant qu'un organisme de l'administration peut utiliser l'interjection « go » dans un contexte d'encouragement sans que cela compromette le devoir d'exemplarité qui lui incombe en vertu de la Charte de la langue française, a précisé le porte-parole Gilles Payet à la presse canadienne dans un courriel. M. Payet a confirmé que l'entrée avait été publiée le 30 mai 2025. La médiatisation du dossier relatif à l'utilisation de l'emprunt « go » en contexte sportif a amené l'Office à évaluer officiellement l'acceptabilité du mot, a-t-il ajouté. Un changement qui fait débat. M. Melançon, le professeur de littérature française, a déclaré que la nouvelle fiche, et en particulier l'expression « partiellement légitimée », laisse entrevoir que l'Office était mal à l'aise avec ce changement. « Cela a dû donner lieu à des débats internes assez soutenus », a-t-il ajouté. « Est-ce qu'on tient compte de ce que le ministre nous dit ou est-ce que l'on n'en tient pas compte ? Si on n'en tient pas compte, quelles sont les conséquences ? Si on en tient compte, comment fait-on pour justifier qu'on a changé d'idée ? Au moins une responsable d'une société de transport en commun a exprimé des doutes quant à la plainte initiale, qui concernait un autobus affichant les mots « Go, CF Montréal, Go » en soutien au club de soccer professionnel de Montréal. Elle a qualifié le problème de « zone grise » dans un courriel adressé à ses collègues en juin 2024. « Ça fait des années qu'on utilise le mot « go » sans problème », a-t-elle écrit. « Est-ce qu'on change tout à cause d'une plainte ?» Mais plus tard ce mois-là, la société a décidé de supprimer ce mot, ce qui a nécessité une mise à jour manuelle de l'affichage sur plus de 1000 autobus qui a duré plusieurs mois. Aucun autre changement ne sera apporté avant l'entretien régulier des autobus à l'automne, a confirmé la STM. L'OQLF a reçu au moins deux autres plaintes concernant le mot « go » au cours des cinq dernières années, selon une réponse à une demande d'accès à l'information distincte. En 2023, une personne s'est plainte de la présence du slogan « Go Habs Go » sur un panneau d'affichage extérieur. Cette plainte a été rejetée, car l'expression est une marque de commerce. Une plainte similaire, déposée en 2021, visait le mot-clic « Hashtag Go Habs Go » qui apparaît en lettres surdimensionnées à l'extérieur du Centre Bell de Montréal, domicile des Canadiens. La personne qui a déposé la plainte a suggéré que, pour se conformer aux règles linguistiques du Québec, l'expression « Allez les habitants, allez » devrait apparaître à côté du slogan anglais en lettres plus grosses. Et oui, je suis sérieux, si la loi s'applique, appliquez-la, a-t-elle écrit. Selon l'OQLF, cette plainte a été réglée à la suite d'une intervention, mais on n'a pas fourni de détails. Un porte-parole de l'équipe de hockey a refusé de faire des commentaires. Le panneau « Hashtag GoHabsGo » est toujours en place. C'était « L'OQLF fait volte-face et accepte l'utilisation de Go pour soutenir des équipes », un texte de Maura Forrest de la presse canadienne, paru le 3 juillet 2025 dans Le Devoir.
Surprenante agriculture autochtone au Michigan. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 6 juillet 2025 dans La Presse. Entre le 11e siècle et l'arrivée des Européens, des Autochtones du Michigan ont cultivé sans interruption des champs d'une superficie dépassant le kilomètre carré. Plusieurs milliers de personnes ont été nécessaires pour cet ouvrage, ce qui remet en question les idées reçues sur le mode de vie des populations sous cette latitude. Il s'agit de champs 10 fois plus étendus que ce qu'on voyait chez les peuples du nord des États-Unis et du sud du Canada, explique l'auteur principal de l'étude, Madeleine McLeister, de l'Université Dartmouth au New Hampshire. La taille de cet ouvrage agricole implique un degré de sédentarité potentiellement incompatible avec ce qu'on sait des populations précoloniales de la région, selon elle. De plus, les champs de cette taille n'ont que très rarement, voire jamais, été cultivés par des populations égalitaires, sans hiérarchie sociale. Son étude a été publiée en juin 2025 dans la revue Science. Comme les peuples autochtones qui habitaient le sud du Québec avant l'arrivée des Français, les Menominee avaient une organisation égalitaire. Et jusqu'à maintenant, les archéologues pensaient que cette absence de hiérarchie limitait à quelques centaines, au maximum à 2000 personnes, la taille des communautés et donc la superficie de leurs champs. Une communauté sans hiérarchie, 10 fois plus grande que les villages précoloniaux connus de la région, est difficile à imaginer, dit Mme McLeister, qui ne veut pas s'avancer sur la taille de la communauté nécessaire à la culture de 300 acres, 120 hectares. Madeleine McLeister explique. Mais il y a plusieurs autres aspects de nos fouilles qui sont inédits. Outre la taille des champs, il y a l'organisation en sillons des trois sœurs, le maïs, la courge et le haricot. Normalement, les cultures sont organisées en petits monticules séparés. On a aussi trouvé des traces d'engrais sous forme de bois brûlé, ce qui n'est présent nulle part ailleurs. On y cultivait aussi des melons et des tournesols. La nouveauté la plus frappante est la culture ininterrompue de ces champs pendant un demi-millénaire. Étant donné l'effort nécessaire pour déboiser une aussi grande surface, il est peu probable que le champ ait été abandonné pendant ces 5 siècles, comme on présume que les peuples semi-sédentaires, comme les Menomini, le faisaient. C'est peut-être pour cette raison que des engrais ont été utilisés. Ailleurs, quand la terre était épuisée, on déplaçait le village. Drone à l'appui. Le site est situé dans la péninsule supérieure du Michigan, une langue de terre voisine du Canada. Il est à la frontière du Wisconsin, sur les rives de la rivière Menomini, qui sépare les deux États. Nous avons utilisé des drones pour faire une prospection par LIDAR, ce qui nous a permis de détecter les faibles variations de topographie laissées par les champs il y a 500 ans, dit Mme McLeister. Nous avions une petite fenêtre de temps pour le faire, après la fonte des neiges, mais avant l'apparition de la végétation. Les vols de drones ont eu lieu au printemps 2023 sur un terrain de 3 km carrés appartenant à un fermier. La prochaine étape est de trouver les vestiges des habitations des fermiers précoloniaux. Cela va peut-être permettre de mieux comprendre pourquoi les champs ont été abandonnés peu avant l'arrivée des Européens, ce dont Mme McLeister. Les premiers explorateurs occidentaux dans la région sont Étienne Brûlé et Jean Nicolet, entre 1620 et 1650. Un responsable de la nation Menomini, David Grignon, a participé à l'étude, mais il n'a pas été possible de l'interviewer. Il fait partie des descendants de la communauté qui a cultivé le site mis au jour par Mme McLeister. Les villages iroquoiens. Aucun champ précolonial de cette taille n'a été retrouvé au Québec, selon Christian Gates Saint-Pierre, archéologue à l'Université de Montréal. Et je ne pense pas qu'on pourra en retrouver, parce qu'il y a eu une agriculture coloniale un peu partout qui a effacé les traces des champs précoloniaux. Il trouve surprenante la mise au jour d'une agriculture aussi intensive sur une aussi longue période, décrite par Mme McLeister à Menomini. Les Iroquois du Saint-Laurent, qui peuplaient les rives du Saint-Laurent dans le sud du Québec, en Ontario et dans l'État de New York, étaient semi-sédentaires, mais leur village ne comptait que 2 à 4 maisons longues et était abandonné après 2 ou 3 générations, selon M. Gates Saint-Pierre. Les terres s'épuisaient, les maisons en bois pourrissaient, les dépotoirs se remplissaient et la vermine s'installait. Alors, on changeait de site. Quand Jacques Cartier a visité Hochelaga, le village avait probablement une population de 2000 personnes, ce qui était le maximum des villages iroquois. Le seul village iroquois plus grand, sur le site Drewlers, Tionyakwata, à Saint-Anicette, près des frontières ontariennes et américaines, comportait 10 à 15 maisons longues. Il a été construit vers 1450 et abandonné vers 1500, dit M. Gates Saint-Pierre. On ne sait pas pourquoi, soudainement, on a eu ce village plus grand. Peut-être était-ce pour se défendre d'ennemis. Surplus, hiérarchie et inégalité. L'idée qu'un village abritait de 5 000 à 10 000 personnes ne peut avoir une culture politique égalitaire est basée sur l'organisation nécessaire pour construire des ouvrages comme le champ mis au jour par Mme McLeister et aussi sur la présence de surplus agricoles. Selon Christian Gates-Saint-Pierre, archéologue à l'Université de Montréal, quand il y a des surplus, il faut les partager, organiser leur commerce. Historiquement, on a vu qu'avec des surplus importants, des individus en prennent le contrôle et une hiérarchie sociale s'installe. Mais aucun indice ne permet de penser que les Iroquois n'étaient pas égalitaires. Quand un Français visite une maison longue, il doit saluer toutes les personnes dans la maison longue où il entre. C'est un signe d'une culture égalitaire. Même le site de Drewlers, Tionyakwata, semble égalitaire malgré sa grande population parce que les maisons longues sont organisées de la même manière, dit M. Gates-Saint-Pierre. Cette approche pourrait-elle avoir été abandonnée pour des villages plus petits à cause d'un danger d'apparition de hiérarchie? C'est certainement plausible, même si ce sont des conjectures, dit l'archéologue montréalais. Madame McLeister estime qu'il faut remettre en question nos perceptions de la culture politique précoloniale du nord-est des États-Unis. Soit ces peuples n'étaient plus égalitaires, soit, ce qui est plus probable, une culture égalitaire est possible avec des populations beaucoup plus grandes que nous ne le pensions. En savoir plus, 10 000 à 12 000. Taille de la population totale d'Iroquois du Saint-Laurent à l'arrivée de Jacques Cartier. Source, Ville de Montréal. C'était « Surprenante agriculture autochtone au Michigan », un texte de Mathieu Perrault, paru le 6 juillet 2025 dans La Presse.
Construit-on des logements inutiles contre la crise? Un texte de Philippe Mercure, paru le 1er juillet 2025 dans La Presse. Construire des tours d'habitation comme celles qui sont prévues à l'île des Sœurs représente-t-il un coup d'épée dans l'eau contre la crise du logement? C'est ce que m'ont écrit plusieurs lecteurs à la suite d'une chronique récente dans laquelle je me montrais favorable à la densification. Leur argument? Ce dont le Québec manque cruellement, ce sont des logements abordables, pas des logements de luxe. En juin, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, IRIS, a publié une étude qui va dans le même sens. Le groupe de recherche associé à la gauche affirme qu'il existe une pénurie non pas de logements en soi, mais de logements répondant aux besoins des ménages à faible et modeste revenu. Est-on en train de construire des logements qui n'aideront en rien à résoudre la crise actuelle? J'ai voulu creuser la question. Puisque l'IRIS dénonce le parti pris pro-construction qu'afficheraient les promoteurs immobiliers, la Société canadienne d'hypothèques et de logements et plusieurs élus, j'ai voulu parler à quelqu'un qui n'appartient à aucun de ces groupes. J'ai joint Jean-Philippe Meloche, professeur de l'Université de Montréal, spécialisé en économie urbaine et en finances publiques locales. Sa réponse courte? Loin d'être inutile, les tours comme celles qu'on planifie à l'île des Sœurs permettront bel et bien d'atténuer la crise du logement. C'est un principe de base en économie. Une augmentation de l'offre entraîne une diminution des prix, dit l'expert. Mon commentaire d'économiste, c'est que, Construire n'importe quoi va aider. Dans le marché dans lequel on se trouve, même construire uniquement des tours de luxe aiderait le marché dans son ensemble. M. Meloche estime que la crise actuelle est faite de deux composantes distinctes, mais interreliées. Premier problème. Dans beaucoup de villes du Québec, il manque tellement de logements que bien des gens, dont les jeunes, ne peuvent plus accéder à la propriété. Je suis en colloque actuellement avec des universitaires, donc des gens qui ont quand même de bons revenus, mais qui arrivent difficilement à trouver des maisons, commente le professeur. Quand les taux d'inoccupation sont très faibles, comme actuellement, c'est tout le monde qui a de la misère à se loger. Le deuxième problème, c'est que les gens qui ont les revenus les plus faibles n'ont pas les moyens d'accéder à un logement, point, dit-il. Ce dernier problème touche une minorité de gens, mais on s'entend qu'il est le plus grave et le plus criant. Jean-Philippe Meloche en convient, la façon la plus rapide et la plus directe d'aider ces gens est de construire du logement abordable. Ça prend des programmes d'aide au logement, des loyers subventionnés ou des logements à propriété publique, comme des HLM. Il faut qu'une partie des logements soit retirée du marché régulier pour servir ses clientèles, dit-il. On n'insistera jamais assez. Nos gouvernements doivent intervenir vigoureusement à ce sujet. Les milliers de ménages menacés de se retrouver à la rue le 1er juillet nous l'ont cruellement rappelé. M. Meloche explique toutefois que les deux problèmes sont liés. Pour le comprendre, prenons l'exemple des jeunes universitaires dont il parlait et qui n'ont pas les moyens d'acheter une maison étant donné l'explosion des prix. Que font-ils? Ils louent des appartements qui, sinon, auraient pu être disponibles pour des étudiants, par exemple. Ces étudiants se rabattent alors sur des logements moins intéressants, traditionnellement occupés par les moins nantis. Ces derniers, par effet domino, se retrouvent à leur tour poussés hors de leur logement. Mais comme ils sont au bout de la chaîne, ils sont à court d'options. Beaucoup se retrouvent donc malheureusement à la rue. Construire des logements pour les jeunes professionnels peut donc contribuer à soulager toute la chaîne. C'est ce qu'on appelle l'effet de ruissellement ou filtrage. Dans son étude, l'IRIS affirme que le filtrage comporte des limites. Jean-Philippe Meloche convient que cet effet n'est pas toujours parfait et direct, mais il insiste. Introduire de nouveaux logements sur le marché ne peut qu'alléger la pression. Il existe plusieurs études qui montrent que les effets de ruissellement ou de filtrage se produisent, dit-il. Mais l'arrivée d'une tour de condo dans un quartier historiquement bon marché ne peut-elle pas provoquer un embourgeoisement et faire monter les prix autour? Imaginez un quartier qui ne permet pas la construction de condos de luxe et qui devient « in » en raison de sa proximité du centre-ville, répond le professeur. Que font les riches? Ils récupèrent les logements présents sur le territoire, les rénovent et les convertissent en logements à leur goût. Une histoire qui rappelle un peu celle du plateau Mont-Royal à Montréal. Prenez le même quartier qui devient « in » et autoriser la construction de condos de luxe, continue-t-il. Les personnes riches vont acheter ces condos au lieu de se taper la rénovation des logements existants. Le résultat, c'est qu'il y aura moins de pression sur les gens à plus faible revenu. Et la densification dans tout ça? Les habitations plus denses consomment généralement moins d'énergie, commente Jean-Philippe Meloche. Si on les insère bien dans la trame urbaine, ça réduit la dépendance à l'automobile et ça multiplie les déplacements qui peuvent être faits à pied, à vélo ou en transport en commun. La construction prévue de 525 logements à l'Île-des-Sœurs, tout près de la gare du REM, dont 10% seront abordables selon le promoteur Groupe MASH, s'inscrit là-dedans. Conclusion, il ne fait aucun doute qu'il faut plus de logements sociaux et abordables. Mais les tours de condos qui poussent ne sont pas des menaces pour ceux qui se cherchent un chez-soi. Elles pourraient même les aider. C'était « Construit-on des logements inutiles contre la crise ?» un texte de Philippe Mercure, paru le 1er juillet 2025 dans la presse.
Les bienfaits de consommer une demi-tasse de légumineuses par jour. Un texte de Anahad O'Connor du Washington Post, paru le 2 juillet 2025 dans Le Devoir. Pour nombre de personnes qui ont du mal à manger sainement, le coût est souvent le principal frein. Les aliments nutritifs tels que les fruits, les légumes, la viande et les fruits de mer ont tendance à être beaucoup plus chers que les aliments ultra-transformés. Mais ce n'est pas toujours le cas. Certains des aliments les plus nutritifs du monde sont également parmi les plus abordables. Les haricots, les pois et les lentilles, collectivement appelées les légumineuses. Les légumineuses sont riches en protéines et en fibres. Elles favorisent la santé intestinale, aident à perdre du poids et améliorent le taux de sucre et de cholestérol dans le sang. Des études ont également montré que les haricots, les pois et les lentilles ont une faible empreinte carbone. Les autorités sanitaires recommandent aux adultes de consommer de 1 à 3 tasses de haricots, de pois ou de lentilles par semaine, en fonction de leurs besoins caloriques. Pourtant, la plupart des Américains sont loin d'atteindre cet objectif. Avec une consommation moyenne d'une demi-tasse de haricots par semaine, selon Christopher Gardner, directeur des études nutritionnelles au Stanford Prevention Research Center. C'est une quantité ridiculement faible, étant donné que les haricots, les pois et les lentilles sont une source incroyable de protéines, de fibres et d'autres nutriments, ajoute-t-il. M. Gardner faisait partie d'un comité gouvernemental d'experts en nutrition qui a publié, en décembre, un rapport suggérant que les recommandations alimentaires américaines mettent l'accent sur les haricots, les pois et les lentilles comme source saine de protéines et de bons substituts à la viande rouge et transformée. Il affirme que les adultes devraient viser à consommer au moins une demi-tasse de haricots, de pois ou de lentilles par jour, plutôt que par semaine. Nous devrions doubler, voire tripler notre consommation de haricots. Nous devrions en manger tous les jours, a déclaré M. Gardner. Sur le plan nutritionnel, ils contiennent tous les éléments bénéfiques et aucun élément nocif, et ils sont généralement beaucoup moins chers que d'autres aliments. Peu d'aliments sont aussi bon marché que les haricots, les pois et les lentilles. Multiples bienfaits. Les légumineuses sont les graines comestibles séchées que l'on trouve dans les gousses des plantes de la famille des léguminosées, qui comptent parmi les plus anciennes cultures de la planète. Partout dans le monde, presque toutes les cuisines traditionnelles incluent au moins un type de légumineuse. Cela s'explique en partie par leur densité nutritionnelle. Les légumineuses contiennent généralement beaucoup plus de protéines et de fibres que le riz brun, le maïs, le blé et d'autres céréales. Une seule tasse de lentilles cuites, par exemple, contient 18 grammes de protéines, soit l'équivalent de 3 gros œufs. Pourtant, contrairement aux aliments d'origine animale, elles sont naturellement exemptes de cholestérol et pauvres en graisses saturées. Toutes les légumineuses sont riches en fibres et en nutriments tels que le fer, le potassium, le magnésium et les vitamines B. Une tasse de lentilles cuites contient 16 grammes de fibres, soit plus de la moitié de l'apport quotidien recommandé pour un adulte moyen. En 2020, une revue systématique d'essais contrôlés randomisés a révélé que les adultes appelés à consommer en moyenne environ une demi-tasse de haricots, de pois ou de lentilles cuits par jour présentaient des améliorations remarquables de leur santé cardiovasculaire, intestinale et métabolique. Ils ont perdu du poids, réduit leur tour de taille et diminué leur taux de cholestérol, leur tension artérielle et leur glycémie. Ils ont également constaté une réduction de l'inflammation et des changements positifs dans leur microbiome intestinal. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que ces bienfaits pour la santé étaient en grande partie dus à la teneur élevée en fibres des légumineuses. Les haricots, les pois et les lentilles contiennent un type particulier de fibre appelée amidon résistant, qui tire son nom de sa résistance à la digestion dans l'intestin grêle. L'amidon résistant passe dans le gros intestin, où il est métabolisé par les bactéries intestinales qui le transforment en composés bénéfiques pour la santé, tels que des acides gras à chaîne courte. Les auteurs de l'étude ont également examiné les inconvénients potentiels. Bien que les haricots aient la réputation de provoquer des flatulences, les chercheurs ont constaté que les cas de troubles gastro-intestinaux étaient assez rares et peu graves. Aucun des participants n'a abandonné l'étude en raison de ces symptômes, ont noté les chercheurs. Si vous êtes préoccupé par des problèmes gastro-intestinaux, l'une des meilleures choses à faire est d'augmenter progressivement la quantité de haricots, de pois et de lentilles dans votre alimentation. Cela permettra à votre corps de s'adapter à l'augmentation des fibres et, à mesure que votre tolérance augmentera, toute augmentation initiale des flatulences devrait disparaître, a déclaré Chris Damham, gastro-entérologue au Centre de santé digestive du Centre hospitalier de l'Université de Washington et auteur de Gut Bites MD, un blog sur la santé intestinale et la nutrition. Le mot d'ordre est d'y aller doucement et progressivement, ajoute-t-il. Bon pour votre budget et pour l'environnement. Lorsque les gens lui demandent ce qu'ils doivent manger pour améliorer leur santé, Chris Damham leur recommande, avant tout, les haricots, les pois et les lentilles, tant pour leur teneur en nutriments que pour leur faible coût. Ce sont des super aliments, dit-il. Ils sont sains, mais ils sont aussi abordables, ce qui est vraiment important en cette période d'inflation et de crise économique. Des études ont montré que les légumineuses sont parmi les sources de protéines les moins coûteuses, leur prix moyen étant nettement inférieur à celui du poulet, du bœuf, du porc, de la dinde, des fruits de mer, des noix, des graines et de l'agneau. Elles sont également moins chères que les œufs. Selon la Réserve fédérale de Saint-Louis, une livre de haricots secs coûte en moyenne environ 1,70 $ américain, contre environ 6 $ américains pour une livre de bœuf haché, environ 4,20 $ américains pour une livre de blanc de poulet et au moins 4,60 $ américains pour une douzaine de gros œufs. Des chercheurs ont établi que les haricots, les pois et les lentilles font partie des aliments les plus abordables et les plus riches en nutriments du monde. De plus, leur empreinte environnementale est plus faible que celle d'autres aliments riches en protéines. La culture des légumineuses nécessite moins d'eau et produit moins d'émissions de gaz à effet de serre que la production de viande. Elle améliore également la qualité des sols, ce qui réduit le besoin d'engrais chimiques. Une grande polyvalence. Comment manger plus de haricots, de pois et de lentilles? Vous n'avez pas besoin de changer grand-chose si vous les ajoutez simplement aux aliments que vous consommez déjà, explique Jill Weisenberger, diététicienne nutritionniste et autrice de Pre-Diabetes, A Complete Guide, deuxième édition. Voici quelques exemples. Vous mangez des œufs au petit-déjeuner? accompagnez-les de haricots noirs, seuls ou dans des burritos. Si vous mangez un sandwich pour le dîner, ajoutez des pois chiches en tartinant votre pain de houmous plutôt que de mayonnaise. Si vous mangez une salade de poulet, ouvrez une boîte de haricots blancs et ajoutez-en quelques-uns. Les haricots cannellini blancs tendres se marient très bien avec le thon ou la salade de poulet, explique Jill Weisenberger. Veillez simplement à rincer les haricots au préalable afin d'éliminer le sodium, ajoute-t-elle. Si vous préparez une salade, ouvrez une boîte de haricots, de pois ou de lentilles cuits et ajoutez-en quelques cuillères. Si vous mangez des pâtes à la sauce tomate pour le dîner, ouvrez une boîte de haricots rouges et ajoutez-en quelques-uns. Le goût et la texture des haricots rouges se marieront bien avec la sauce, explique Mme Weisenberger. Vous préparez un chili, une soupe ou un ragoût pour un grand souper familial. Écrasez quelques haricots blancs et ajoutez-les à la casserole. Les haricots en purée épaissiront votre ragoût, votre soupe ou votre chili et personne ne remarquera leur présence, note Mme Weisenberger. Lorsque vous préparez une recette à base de bœuf haché, remplacez une partie du bœuf par des lentilles brunes cuites pour ajouter des fibres et des nutriments. Les lentilles brunes ont un goût doux et ressemblent à la viande hachée cuite en matière d'apparence et de texture. Essayez d'ajouter les lentilles cuites dans un rapport de 2-1 avec le bœuf haché, 2 tasses de lentilles cuites pour chaque livre de bœuf haché cuit. Vous pouvez faire cela pour préparer des hamburgers, de la sauce bolognaise, de la viande pour tacos et même des sloppy joes. Avec autant de variétés de haricots, de pois et de lentilles, il existe une infinité de façons de les consommer. Vous pouvez utiliser le humus comme trempette pour les chips et les légumes ou grignoter des pois chiches grillés à la place des chips de pommes de terre. Vous pouvez les faire griller chez vous sur une plaque de cuisson ou les acheter en ligne ou dans votre épicerie. Si vous cuisinez à la maison, il y a presque toujours un moyen d'ajouter des haricots, des pois ou des lentilles à vos repas, explique Mme Weisenberger. Vous pouvez les manger avec des saveurs mexicaines, italiennes ou asiatiques, ajoute-t-elle. L'un de leurs principaux atouts est leur grande polyvalence. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient. C'était Les bienfaits de consommer une demi-tasse de légumineuses par jour, un texte de Anahad O'Connor du Washington Post, paru le 2 juillet 2025 dans Le Devoir.